Enfin, globalement, c'est un temps sec et ensoleillé pour quasiment tout le monde.
Hein. Merci beaucoup, Marina. Vous écoutez RTL. Il est 6h.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant dans les petits matins. Comment le Mossad, le service de renseignement extérieur israélien, a réussi à infiltrer le régime iranien pour lancer l'offensive en cours? On en parlera en détail avec notre invité tout à l'heure en direct à 6h15. Pour l'heure, c'est le journal avec vous, Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À la une de votre journal, des gamins pour attaquer les prisons.
Recrutement très organisé pour ces actions signées DDPF dont on avait beaucoup parlé en avril. Révélation RTL dans un instant. Une cinquième nuit de frappe entre Israël et l'Iran. Le G7 appelle à protéger les civils. À suivre également la fin du conclave sur les retraites dans l'incertitude totale. Et puis hommage à Eddie Barclay à Saint-Tropez.
Après votre journal, Tom Lefebvre, vous allez en entendre parler ce matin.
ChatGPT est-il le journal de demain? L'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée comme source d'information.
À tout à l'heure.
RTL Matin.
Alors vous vous souvenez sans doute de cette vague d'attaques contre les prisons au printemps. Eh bien RTL vous révèle ce matin comment les exécutants ont été recrutés.
Entre le 14 et le 21 avril exactement, plus d'une quinzaine de centres pénitentiaires ont été visés par des incendies ou par des tirs. Des surveillants ont été menacés. Des actions généralement signées DDPF pour droit des prisonniers français. Une série d'interpellations a conduit à plus de 20 mises en examen. Thomas Proutot, vous avez pu consulter le rapport d'enquête. On y découvre un recrutement méthodique des petites mains.
Oui, à l'exemple de Samia, une ado marseillaise de 16 ans, interpellée en mars dernier dans une affaire de stupéfiants. Elle ressort libre, mais avec une dette de 900 euros envers un trafiquant. D'après son récit aux policiers, la jeune fille est recontactée un mois plus tard par le même homme sur la messagerie cryptée Signal. Pour apurer sa dette, il lui ordonne d'aller incendier des véhicules devant la prison de Tarascon. La jeune fille s'exécute, voiture, chauffeur et jerrycan d'essence sont fournis. Sur place, elle franchit le grillage et met le feu à 3 véhicules, mais elle repart dans la précipitation et abandonne une doudoune. Un ADN très vite identifié conduit à la mineure qui déballe tout en garde à vue sans pouvoir nommer le commanditaire autrement que par son pseudo B2.
Et le modus operandi, Thomas, est toujours le même.
Oui, un procédé quasi identique pour chaque attaque. Un donneur d'ordre qui contacte un petit délinquant sur un groupe Signal quelques jours avant, contre promesse de rémunération, parfois accompagné de menaces. À chaque fois, le matériel est fourni. À chaque fois, les exécutants doivent taguer DDPF pour droit des prisonniers français et filmer. Des éléments qui confirment une solide planification, même si l'amateurisme des petites mains a conduit à de nombreuses interpellations. Un instigateur au cœur du réseau a été identifié dès la fin avril. Un détenu de 23 ans, proche du groupe criminel DZ Mafia. Il affirme n'avoir été lui-même que l'intermédiaire de deux commanditaires dont il dit ne connaître que les pseudos Diego et Koala. Les enquêteurs ne les ont pas identifiés à ce jour.
Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. Un deuxième décès lié aux airbags Takata en métropole. Ça s'est passé le 11 juin à Reims. C'est une mère de famille d'une quarantaine d'années qui a été tuée par l'explosion de l'airbag après avoir percuté une glissière de sécurité. Une adolescente de 14 ans a également été blessée. Ces airbags sont déjà impliqués dans 11 décès outre-mer.
L'actualité ce matin, c'est toujours cette tension persistante entre Israël et l'Iran qui vient bousculer le sommet du G7 au Canada.
Oui, le G7 qui affirme ce matin dans une déclaration commune que l'Iran ne devra jamais disposer d'une arme nucléaire. Alors, Donald Trump a quitté Calgary plus tôt que prévu pour se consacrer pleinement à la gestion de ce conflit. Après avoir écrit sur son réseau social, tout le monde devrait évacuer Téhéran immédiatement. Car Benjamin Netanyahou, lui, poursuit son offensive et pas seulement à cause du nucléaire. Tuer l'ayatollah Ali Khamenei mettra fin au conflit. Voilà ce qu'a déclaré le Premier ministre israélien. Mauvaise approche, selon Emmanuel Macron.
Tous ceux qui croient qu'en frappant avec des bombes depuis l'extérieur, on sauve un pays malgré lui-même ou contre lui-même, se sont toujours trompés. Je pense que les peuples sont souverains, ils changent leurs dirigeants par eux-mêmes et que tous ceux qui ont voulu par le passé changer des régimes par des frappes ou des opérations militaires ont commis des erreurs stratégiques. C'est l'expérience qui nous l'apprend et je ne pense pas que ce soit à des puissances étrangères de changer les régimes politiques en cours. Je pense que c'est au peuple souverain de le faire.
Et sur le terrain, les frappes se poursuivent sans relâche. La défense anti-aérienne a été activée dans les deux pays. En Israël, les sirènes d'alerte ont retenti deux fois ce matin dans plusieurs endroits, notamment dans le nord. Ça n'a duré que quelques minutes, mais c'est récurrent, comme l'explique cet habitant de Netanya, obligé à chaque fois de se réfugier dans un bunker.
On a commencé à un peu aménager la pièce blindée. Il y a des matelas qui ont commencé à être mis par terre. On a tous pris plus ou moins des matelas gonflables, des bouteilles d'eau. Et des fois, voilà, comme hier soir, d'un coup, on a entendu l'alarme. Et là, par contre, on a dû se dépêcher. J'ai dû prendre ma fille en courant. À partir du moment où l'alerte, elle sonne, on n'a qu'une minute trente pour rejoindre la pièce blindée. On est obligé de courir. On est tous unis, on est tous très solidaires. On sait pas, on sait que s'il y a un missile contre la pièce blindée, on n'arrive pas à savoir si on va être vraiment protégé, comment ça se passe, quoi. Donc, c'est très angoissant.
Cet habitant de Netanya au micro RTL de Jean Lenaï.
RTL 6h05, c'est l'heure de vérité aujourd'hui pour le conclave sur les retraites.
Dernière journée de discussion. Alors pour le patronat, pas question de revenir sur l'âge de départ à 64 ans. En contrepartie, les syndicats exigent une prise en compte de la pénibilité et peut-être un nouveau calcul des pensions de retraite des femmes. La CFTC et la CFDT demandent aussi d'avancer l'âge d'annulation de la décote de 67 à 66 ans. Bon, verdict ce soir, on verra s'il y a un accord. Pour l'instant, François Omri de la CFE-CGC n'est pas très optimiste.
Le patronat ne veut avancer sur aucun sujet. Il a fermé la porte. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de régler les problématiques qui ont été créées de façon spécifique par la loi 64 ans. Principalement les femmes mères de famille et les carrières longues ou pénibles. Il n'y a aucun gain économique à faire travailler des gens qui n'en ont plus ni l'envie, ni la capacité physique. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu plus d'intelligence collective à écouter les gens, à se mettre un peu au service d'une fin de carrière plus harmonieuse et donc de fait plus productive sur le plan économique?
Voilà, verdict en fin de journée, quoique, hein, parce que c'est fini, mais ça pourrait continuer. François Bayrou est prêt à accorder un délai supplémentaire si nécessaire.
C'est fini, mais ça pourrait continuer, effectivement, c'est un peu le cas. On sera avec Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT, qui sera l'invitée de RTL tout à l'heure. Elle répondra aux questions de Thomas Soto à 7h40.
Ma prime rénov' est finalement maintenue pendant l'été, mais pas pour tous les travaux, uniquement pour ce qu'on appelle les monogestes, c'est-à-dire des travaux isolés, comme la pose d'une chaudière ou de nouvelles fenêtres. Un geste du gouvernement réponse à la colère du secteur du bâtiment. L'ensemble du dispositif reviendra en septembre, mais dans une version allégée. Tout autre chose en sport, en escrime, un exploit hier soir au championnat d'Europe. Le jeune fleurettiste Anas Anan, 21 ans, a décroché une médaille d'argent après avoir sorti notamment le numéro 2 mondial en demi-finale. C'est un exploit, c'est sa toute première sélection à ce niveau.
Direction Saint-Tropez maintenant.
À l'occasion des 20 ans de la mort d'Eddie Barclay, une expo photo en plein air lui rend hommage. Une cinquantaine de clichés sont exposés en plein cœur du village. Visite guidée avec Marie Bonnet-Blanc.
On ne peut pas la louper. Juste en face de la célèbre gendarmerie de Saint-Tropez, c'est toute la vie de Barclay qui défile des années 50 à la fin de son existence. Josette et Chantal sont en vacances et elles n'ont pas hésité à s'arrêter pour lire et admirer les panneaux.
On y voit Mireille Mathieu qui a été lancée par Eddie Barclay. On voit tout un tas de chanteurs, Carlos, Michel Delpech, Michel Sardou, puis un peu l'histoire d'Eddie Barclay.
J'adore, je ne pensais pas voir ça ici. On retrouve les notes. Les grands, quoi.
Eddie Barclay, c'était les soirées blanches avec son lot de vedettes. C'était le jazz, mais tout simplement l'art de vivre. Pour Jean Boulis, depuis plus de 40 ans sur la place des Lys, Eddie, ça représente beaucoup.
Les parties de boules, l'ambiance qu'il y avait, le monde que ça attirait pour regarder les parties de boules. Parce qu'ils étaient un noyau, et bon, souvent c'était le noyau qui jouait ensemble, mais de temps en temps, ils étaient invités à une partie de boules ou autre.
Alors il était comment?
Lui, tout simple, très sympa.
L'exposition en plein air dédiée au roi du vinyle est visible jusqu'au 12 octobre prochain.
Marie Bonnet-Blanc à Saint-Tropez pour RTL.
Les courses aujourd'hui à Nantes, départ 18h05, c'est précis.
Dominique Cordier vous conseille de jouer le 5, le 3, le 16, le 2, le 10, le 12 et le 7. 5, 3, 16, 2, 10, 12, 7. L'outsider d'RTL, c'est le 10, Septimus.
Merci beaucoup.
Donc Gladiator.
Merci beaucoup Isabelle, vous revenez à
7h30. Oui, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Nos auditeurs nous envoient leur température chez eux. Il y a Sylvie qui est au nord de la Seine-et-Marne, 15 degrés. On a aussi du 14 degrés, c'est Bernard qui est à Lille où le ciel est clair. 14 aussi à Bourges, le ciel est également dégagé. Message d'Éric. Et puis Jocelyne est à Moëlin en Haute-Marne, 14 degrés également. Et on va terminer par un message d'amour. On en a beaucoup depuis ce matin, je ne sais pas pourquoi. Oui. Il y a quelque chose
dans
l'air.
Il y a de l'amour dans l'air.
Il y a Ghislaine qui nous dit « J'ai 70 ans aujourd'hui et je vais fêter ça ça avec mon mari d'amour à Pornic.
Eh ben dis donc.
Ce sera une belle journée.
À suivre votre rendez-vous pour découvrir l'info avant les autres ce matin. Tom Lefebvre, un rapport surprenant concernant nos sources d'informations.
Oui, alors si vous nous écoutez ce matin, c'est que vous vous informez avec la radio. D'autres le font avec l'intelligence artificielle.
Et puis au cœur de l'actu, comment le Mossad, le service de renseignement israélien, a réussi à infiltrer le régime iranien pour lancer l'offensive en cours. On va en parler avec notre invité. Restez avec nous, il est 6h09.
RTL pour décrypter l'info.
Partir en livre. Le festival du livre jeunesse organisé par le Centre National du Livre revient du 18 juin au 20 juillet. Partout en France, des milliers d'événements gratuits célébreront le thème « Les animaux et nous ». Lecture à voix haute, ateliers, rencontres d'auteurs, jeux littéraires rendront hommage aux petites et grandes bêtes de nos contes, albums et romans. Programme sur partirenlivre.fr.
RTL.
Alors monsieur, bonne nouvelle, vous êtes bien éligible à l'aide pour rénover votre logement. Il me faut juste votre numéro fiscal pour l'activer.
Là, maintenant ?
Oui, non, mais c'est normal, hein, c'est une formalité.
Mais je...
Le problème, c'est que si on l'active pas aujourd'hui, vous pourrez plus bénéficier de cette aide.
Bon, écoutez, j'aime pas qu'on me presse, j'ai besoin d'un autre avis.
Un numéro fiscal, c'est confidentiel et ce n'est pas pour les escrocs. Avant de dire oui, demandez un autre avis. Contactez votre conseiller France Rénov sur france-rénov.gouv.fr, le service public de la rénovation de l'habitat.
Renault Car Service propose le bilan confort et sécurité avec 60 points de contrôle à 45 euros. 60 points de contrôle, c'est beaucoup, non ? De l'usure des pneus à la vérification des systèmes électroniques, le tout réalisé par les experts Renault, oui, c'est beaucoup. Mais c'est ce qu'il faut pour partir serein en vacances. Une fois de plus, qui mieux que Renault peut entretenir ma Renault ?
Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2025. Offre à particulier pour les véhicules thermiques Renault et Dacia dans le réseau participant. Conditions sur Renault.fr. Source l'Automobile Magazine 2024.
Bouleversé par le décès de mon père, ça a été un soulagement de découvrir qu'il avait pris un contrat de prévoyance obsèques chez Roc Éclair. Tout était financé, organisé. Roc Éclair s'est arrangé pour qu'on ait aucun frais à avancer. Ça nous a permis de réaliser la cérémonie qu'il aurait souhaité.
En ce moment, 2 mois offerts pour tout contrat de prévoyance Roc Éclair, conclu avant le 30 juin 2025.
Roc Éclair, là pour vous.
Hors prime périodique sur un an, distribué par Prévoyance FI. Conditions détaillées en agence et sur rocéclair.com.
Julien Courbet règle vos problèmes en direct sur RTL.
Le 10h midi en direct sur RTL avec celui qui pensait mener une petite existence paisible dans sa petite maison qu'il a fait construire à la campagne sans compter sur son voisin dont les eaux usées se déversent chez lui. C'est la catastrophe. Les odeurs sont tellement insupportables que notre auditeur ne peut même plus habiter sa maison. Coup de fil en direct à 10h sur RTL.
Ça peut vous arriver, l'émission leader en France de 10h à midi. Vous allez en entendre parler.
Avec vous, Tom Lefebvre, il est 6h12. Tous les matins, vous dénichez l'info qui va faire parler. Et on parle d'info, justement, l'information. Et si l'intelligence artificielle était en train de devenir le journal de demain ?
Eh oui, dit ChatGPT, il y a quoi de neuf dans l'actu ? On apprend, Jérôme, dans un rapport publié cette nuit par le très sérieux institut Reuters, rattaché à l'université d'Oxford, que les robots conversationnels, donc ChatGPT, Gemini ou Yama de Meta, sont en train de devenir des sources d'informations. Pour la première fois, ce rapport annuel sur l'état des médias nous dit que l'IA ne sert plus seulement à faire des blagues ou rédiger des mails. Elle commence à servir de média. Et chez les jeunes, c'est encore plus marqué.
Et c'est à quel point, Tom ? Est-ce que c'est vraiment significatif ?
Alors, sur les 97 000 personnes interrogées dans 48 pays, donc c'est assez conséquent, 7% d'entre eux utilisent chaque semaine une IA pour s'informer. Chez les moins de 25 ans, on monte même à 15%, donc un jeune sur 7. Concrètement, on utilise ces outils pourquoi ? Pour aller plus vite, c'est-à-dire résumer des articles principalement, les traduire, obtenir des recommandations ou tout simplement poser des questions. On parle beaucoup de la situation à Gaza par exemple, mais on peut dire c'est quoi la situation à Gaza ? Ça permet d'avoir une réponse immédiate et de façon très simplifiée.
Mais est-ce qu'on peut faire confiance à ces robots parce qu'il n'y a pas de journalistes ?
Alors justement, c'est là qu'est le paradoxe. Les jeunes les utilisent, mais tout le monde reste méfiant. Dans ce même rapport, on apprend que la majorité d'entre eux préfère encore quand l'information est traitée par des humains. Ouf. On craint que l'info produite par l'IA soit floue sur ses sources, pas assez transparente, voire biaisée. Et surtout, on ne sait pas toujours d'où elle vient, cette info. Alors, ça ne freine pas pour autant l'essor de ces outils. D'ailleurs, certaines rédactions commencent à faire des partenariats avec les géants de l'intelligence artificielle pour simplifier leur travail ou monétiser leur contenu.
Et Tom, ce rapport va plus loin.
Oui, il dresse un autre constat. C'est que les réseaux sociaux gagnent du terrain. et surtout les influenceurs. Aujourd'hui, chez les 18-24 ans, la première source d'information, c'est la vidéo en ligne. Sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, des contenus très courts, 45 secondes, une minute, qui résument très bien une actualité. En France, on peut citer notamment Hugo Décrypte qui le fait. Ses contenus, alors écoutez bien, touchent 22% des moins de 35 ans, c'est énorme. Son contenu est fiable, mais ça n'est pas le cas de tous ceux qui le prétendent. Je pense notamment aux comptes soi-disant d'information sur X, l'ancien Twitter notamment, aux fausses vidéos, aux fake news qui circulent énormément. Donc plus que jamais, méfiez-vous des informations surprenantes que vous pouvez trouver sur les réseaux. Heureusement, les robots ne vont pas encore remplacer les journalistes. Et si vous avez tourné le bouton de la radio ce matin pour vous informer, c'est déjà une bonne nouvelle.
7% des personnes qui s'informent via l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Tom Lefebvre.
RTL, au cœur de l'actu.
Au cœur de l'actu, cette cinquième nuit de tension entre Israël et l'Iran. Les frappes se poursuivent sans relâche. La défense anti-aérienne a été activée ces dernières heures dans les deux pays. Cette opération a été minutieusement prévue, planifié et organisé, semble-t-il, depuis plusieurs années, même par le Mossad, l'agence d'espionnage israélienne. Bonjour Vincent Nouzi.
Bonjour.
Journaliste d'investigation et spécialiste de l'espionnage, merci d'être avec nous en direct ce matin. On va peut-être d'abord rappeler ce qu'est le Mossad, cette agence créée pour assurer la survie d'Israël, c'est sa mission.
Oui, c'est sa mission. Elle est très active depuis le début, depuis sa naissance. Elle s'était fait remarquer notamment par la capture des anciens de la Grande Asie, comme Eichmann, évidemment, oui. Et puis d'autres opérations très spectaculaires de vengeance après l'assassinat d'athlètes israéliens au JO de Munich en 1972. Donc, c'est des gens qui font et qui aussi font savoir, ce qui est une de leurs spécificités par rapport à d'autres agences de renseignement.
Et c'est
une
le
manière de dissuader leurs ennemis de continuer de faire ce qu'ils font contre Israël.
Et c'est le Mossad qui est derrière les explosions spectaculaires de Beeper et de Talkie-Walkie du Hezbollah qu'on avait vu en septembre dernier. Opération diablement redoutable.
Comme vous l'avez. Oui, absolument. Et si vous l'aviez vu, c'était le prélude, en fait, une opération très spectaculaire, une forme de surprise tactique qui s'est transformée en un grand avantage militaire puisqu'ils ont décimé l'ensemble des états-majors du Hezbollah, y compris le chef du Hezbollah, Nasrallah. C'est d'ailleurs cette mort-là qui a provoqué une première pluie de missiles iranienne, grand allié du Hezbollah, sur Israël. Et c'est cette plus de missiles de septembre-octobre, qui a probablement accéléré les plans militaires israéliens, qui sont dans le carton, en fait, depuis près de 20 ans pour attaquer Israël. C'est une forme d'obsession israélienne de vouloir attaquer. Donc, tous les moyens sont bons et tous les moyens ont été employés, et en premier lieu, évidemment, le Mossad.
Et alors, cette opération du 13 juin, du vendredi 13 juin, elle est préparée par le Mossad depuis combien de temps, depuis combien d'années?
C'est une vieille obsession de l'Israël de vouloir frapper notamment le programme nucléaire iranien, puisque à partir du moment où la centrale de Natanz, qui est la centrale où des centrifugeuses fabriquent de l'uranium capable de fabriquer une bombe, a été découverte et annoncée en 2002, depuis cette date-là, l'obsession d'Israël, c'est d'entraver ce programme nucléaire. Alors, ils y sont parvenus par plein de moyens, mais les chefs du Mossad, il faut le signaler, jusqu'en 2016, les deux grands chefs du Mossad qui se sont succédés étaient contre ce plan voulu par Netanyahou de frapper massivement, de bombardement massif de l'Iran.
Mais comment est-ce qu'ils ont...
À partir de 2016, Benjamin Netanyahou a alors nommé des successeurs, deux chefs du Mossad, l'actuel s'appelle David Barnea, qui eux sont des fidèles et absolument obsédés par cette guerre contre l'Iran. Donc en fait, Netanyahou a écarté les dirigeants du Mossad contre cette opération pour avoir des dirigeants qui lui seraient favorables.
Mais comment est-ce qu'ils ont préparé cette opération? Ils se sont infiltrés dans la population iranienne, ils ont recruté des Iraniens. Comment ils ont fait concrètement?
Alors, il y a eu plusieurs couches. Il y a eu une première couche qui était la pénétration des réseaux des systèmes de communication des états-majors iraniens. Et donc ça, c'est quelque chose qui est en place quasiment depuis 20 ans. Ils écoutent et ils surveillent tout ce que fait l'état-major iranien depuis près de 20 ans. 2004, ça s'appelait l'opération Plan Daniel. Et puis, il y a eu une couche de recrutement de sources à l'intérieur du système, souvent assez corrompu, des gardiens de la Révolution, qui est vraiment la force d'élite militaire du régime. Et puis, après, ils ont listé un certain nombre de personnes qu'ils voulaient absolument éliminer, donc ce qu'on appelle les assassinats ciblés. Ils ont commencé à les localiser. Alors, ça a commencé de manière ponctuelle par des scientifiques, par des militaires, des responsables du programme. Et puis, progressivement, ça s'est élargi. Et la liste a été faite, probablement ces derniers mois, avec pour cibler à la fois des commandants militaires, donc la chaîne de commandement, la hiérarchie militaire, mais aussi des scientifiques chargés du programme nucléaire. Donc il y a double liste que fabrique, si je puis dire, le Mossad, en ayant d'une part les moyens techniques de géolocalisation et d'écoute des systèmes de communication, et d'autre part des sources humaines qui leur indiquent où sont les gens précisément.
Et parmi ces sources humaines, ce sont donc des Iraniens recrutés, et oui. Comme on sait, il y a une opposition assez virulente en Iran, on recrute au milieu de... parmi l'opposition.
Oui, on recrute par l'opposition, mais on peut recruter aussi des gardiens de la révolution eux-mêmes, ouais. Parce que, ce que je disais tout à l'heure, le système est assez corrompu. Oui. Et donc, avec beaucoup d'argent, les Israéliens sont capables de recruter des taupes. Alors, il peut y avoir des motifs idéologiques contre le régime de Téhéran, mais aussi des opposants, si je peux dire, mais aussi beaucoup de gens qui vont y aller pour de l'argent. Et donc, évidemment, s'ils se font prendre, c'est extrêmement dangereux.
Vincent Nouzi, Benjamin Netanyahou a clairement affiché la couleur. Hier soir, il a dit « Tuer l'ayatollah Ali Khamenei mettra fin au conflit ». C'est ça le but, c'est ça qui est programmé par le Mossad aujourd'hui, c'est l'élimination du personnage le plus puissant d'Iran.
Pas seulement par Mossad, puisque c'est une opération qui, par son ampleur et sa combinaison avec les forces militaires israéliennes, de Tsahal et l'armée israélienne, oui. C'est ça qui crée le changement d'échelle. C'est-à-dire, avant, ils étaient sur du ciblage très précis de telle ou telle personne, ou de tenter de ralentir la
centrale. Mais là, ils ont prévu d'éliminer l'ayatollah Khamenei.
Là, on est dans ce qu'on appelle un regime change, un changement de régime, quasiment. Donc là, c'est du jamais vu depuis la tentative américaine de changer le régime en Irak en 2003. On sait que ça a assez mal tourné. Oui, le régime d'Irakien de Saddam Hussein est tombé en 2003, mais qu'est-ce qui s'est passé après? C'est ça. C'est une boîte de Pandore. On ne sait pas trop ce qui va se passer dans ce Moyen-Orient qui est si compliqué. Donc la volonté israélienne qui essaie de profiter évidemment de l'affaiblissement de l'Iran, du fait de ses alliés, le Hamas, le Hezbollah, la Syrie qui a changé de tête, tout ça lui laisse une opportunité et Trump le laisse faire très clairement.
Merci beaucoup Vincent Nouzi, journaliste d'investigation et spécialiste de l'espionnage. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.
Merci à vous.
RTL Matin, Jérôme Florin.
À suivre dans le journal de 6h30, notamment les assurances auto et assurances habitation de plus en plus chères. On vous expliquera pourquoi. La conclusion du conclave aussi, c'est aujourd'hui la dernière fois que syndicats et patronats se retrouvent pour tenter de trouver un accord sur les retraites. A priori, on ne touche pas aux 64 ans. Et en contrepartie, les syndicats veulent un effort sur la pénibilité et le travail des femmes.
Laissez-vous tenter, première.
Bonjour Isabelle Morini-Bosque.
Bonjour tout le monde.
Il y a de l'inédit partout ce soir. Koh-Lanta sur TF1, Polar sur la 3, 911 sur M6. Mais l'événement, il est sur la 2 avec une spéciale « Sommes-nous tous racistes ?».
Alors le principe, 50 personnes de toutes origines et de tous milieux participent à des expériences sociales destinées à faire comprendre les mécanismes inconscient de comportement, disons, discriminant, sinon raciste. Cette spéciale est assurée par Marie Drucker, Jamy Gourmaud, le comédien réalisateur Lucien Jean-Baptiste et le sociologue Sylvain Delouvet. Alors soyons honnêtes, c'est typiquement le genre de programme dont les téléspectateurs pensent le plus grand bien, tout en se dispensant de regarder par peur d'être culpabilisé par une soirée trop militante. Alors Lucien Jean-Baptiste, dès le préambule, entend les rassurer.
Vous êtes raciste, vous et moi. Est-ce que je suis raciste? C'est quoi le problème avec nos différences? Regardez-moi, par exemple. C'est vrai, je peux pas le cacher, c'est évident. Je suis chauve. Et il y a plein de gens qui détestent les chauves. Les coiffeurs, surtout. Bref, qu'on soit noir, blanc, jaune, vert, rouge, riche, pauvre, nous avons tous des idées reçues, des a priori, des préjugés sur tous ceux qui ne nous ressemblent pas.
Les expériences sont très variées, souvent ludiques. Exemple, dans une salle d'attente, on a deux sièges vacants. L'un à côté d'un homme noir, l'autre à côté d'un homme blanc. Et c'est là que presque tous choisissent de s'asseoir. Alors, est-ce du racisme ou un esprit clanique venu de la nuit des temps? Réponse du sociologue.
Ce n'est pas un comportement raciste en tant que tel. On cherche les gens qui nous ressemblent. Certaines thèses expliquent que les tribus primitives, déjà, avaient tendance à se méfier de la différence de l'autre et à plutôt chercher la similarité. Ici, c'est une question de choix, pas forcément volontaire. Ils vont préférer s'asseoir à côté de quelqu'un où ils pensent qu'il y a des points communs avec eux.
Bon, voilà. Intéressant.
Mais justement, vu le titre « Force », que vont-ils dire pour convaincre un téléspectateur rétif de regarder? Ils me l'ont dit.
Bah, que vous vous posiez ou pas cette question, c'est une émission très instructive sur notre place dans la société. Qu'est-ce que l'humain aussi? Il faut la regarder.
Non pas pour mettre un doigt sur ceux qui sont racistes et ceux qui ne le sont pas, mais pour comprendre les mécanismes qui peuvent nous amener à devenir racistes.
Il y a des expériences ludiques, surprenantes et surtout, et c'est ça le but de cette émission, des expériences qui nous permettent de réfléchir.
Et quelles sont les expériences les plus originales d'ailleurs?
Alors il y en a une qui est vraiment très intéressante. C'est un même discours sur l'intelligence artificielle, on s'en fiche, ouais, tenu par trois conférenciers scientifiques à trois groupes. Le premier, sérieux, à l'accent allemand. Le deuxième, plus souriant, à la tchatch du midi, il a l'accent aussi. Les deux sont en fait des comédiens, mais ça, le groupe ne le sait pas. Le troisième est en revanche un vrai professeur avec costume trop grand et un léger accent africain. Il est noir. Eh bien, l'allemand est jugé par le public convaincant, le méridional moins crédible, plus drôlatique, et le vrai professeur, lui, est jugé mauvais. Tous pensent d'ailleurs que c'est un comédien. C'est donc le professeur qui est noir. Autre expérience, on a des fillettes noires face à des poupées genre barbe. L'une est blanche, l'autre noire. Qui vont-elles choisir?
Quelle est la poupée la moins jolie?
La noire, parce que j'aime pas trop le noir.
Pourquoi?
Parce que tous les enfants de mon école, ils sont blanches. Et moi, quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche.
Ah. Lucien, vous avez une fille, vous avez un garçon aussi?
Oui.
Vos enfants sont métis?
Oui, gris. Puisque la maman est blanche, le papa est noir.
Qu'est-ce que ça vous inspire?
Quand on a des enfants non blancs, on est toujours en train de se poser des questions. Est-ce que je lui offre la poupée noire? Est-ce que je lui offre la poupée blanche? Alors, j'ai trouvé une poupée indienne. Sérieusement, elle a tout eu. Des poupées noires, des poupées blanches. Mais j'essaye de lui dire le monde est naturellement multicolore. Vous voyez?
Ah, c'est une émission très originale.
La suite sur la 2, vous verrez, il y a beaucoup d'expériences d'éthologie. Hein. La suite est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Maintenant, sur la 2, c'est vrai que c'est la concurrence est rude, on va dire.
Sommes-nous tous
racistes? Regarder un replay.
Merci beaucoup, Isabelle.
Laissez-vous tenter. Premier.
Un extrait de vos grosses têtes que vous retrouvez tous les jours à 15h30 jusqu'à 18h avec les fake news.
Drame en Belgique. Un homme qui a mis une balle dans la tête de sa partenaire après lui avoir fait l'amour s'est défendu en déclarant « Je suis pansexuel ».
Pansexuel. Caroline Diamant.
On a retrouvé le texte original de l'abbé Pierre du 1er février 1954. En fait, le texte avait été coupé. L'abbé Pierre disait « Il ne faut plus personne dehors. Venez tous coucher à la maison. »
Christine Bravo.
Louis Sarkozy a fait un livre sur Napoléon qui a inventé la Légion d'honneur. Alors, Nicolas Sarkozy a décidé de lui retirer son livre.
Former une personne de plus de 50 ans, c'est une blague.
Mais au contraire, pour moi, c'est très sérieux. Quand j'ai formé Marc, 59 ans, à la soudure laser, j'ai su que je pourrais faire confiance à son expérience. En plus, maintenant, c'est lui qui forme les nouveaux.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement. Laurent Deutsch sur RTL, entrée dans l'histoire.
Tout à l'heure, direction le Moyen-Orient, avec un homme qui a fait de la reconnaissance de la Palestine son combat. Yasser Arafat, un leader tiraillé entre la guerre et la paix, c'est tout à l'heure à 15h, d'entrée dans l'histoire sur RTL.
Entrée dans l'histoire, c'est l'émission d'histoire la plus écoutée de France. Chez Cellier des Dauphins, le rosé prestige, c'est avant tout le savoir-faire de vignerons producteurs engagés sur le territoire du sud de la vallée du Rhône.
Les raisins de notre rosé sont cueillis à l'aube pour préserver toute la fraîcheur des arômes. Avec ses notes florales et de petits fruits rouges, le rosé prestige AOC Côte du Rhône accompagnera parfaitement vos apéritifs et repas d'été.
Avec Cellier des Dauphins, nos vignerons vous invitent à des moments de saveur partagés. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
On en parle.
Comment faire des économies en optant pour la mobilité électrique? On en parle dans un instant avec Camille, conseillère EDF.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
N'oubliez pas, téléchargez l'application RTL pour écouter ou réécouter vos émissions préférées ainsi que des contenus inédits. Place à des vacances sans nuages avec Homer, 450 000 villages en France et en Europe. Réservez sans tarder sur homer.com. Homer.
Marina, il va faire 34 degrés aujourd'hui à Perpignan.
Bah oui, on peut dire qu'il fera chaud à Perpignan et pas que. 33 à Nîmes, 31 à Marseille et à Bordeaux. Vous aurez 30 degrés à Paris cet après-midi, 30 degrés à Rennes, à Nantes, à Lyon et à Limoges, ainsi qu'à La Rochelle et à Toulouse. Évidemment, à l'ombre, hein, c'est 30 degrés. 29 à Montauban, 28 à Lille, à Nevers et à Dijon. 27 degrés attendus à Besançon et à Strasbourg. 25 à Biarritz. Il fera 23 à Caen et 20 à Cherbourg.
Et dans le ciel du bleu partout.
Oh oui, ce sera une très belle journée, très ensoleillée. Pour les petits bémols, des brumes et brouillards présents ce matin de façon localisée sur les côtes nord de la Bretagne, la Normandie jusqu'à la baie de Somme. Ça va vite se dissiper et c'est le bleu qui dominera ce matin. Cet après-midi, on conserve le bleu. Peut-être quelques cumulus, mais des cumulus de beau temps qui concerneront un tiers nord. Et puis des Alpes du Sud aussi à la Provence. Des nuages vont revenir. Ils pourront donner une petite averse quand même sur le Mercantour. Mais sinon, partout ailleurs, ce sera du bleu.
Merci beaucoup Marina. Dans un quart d'heure, votre tablé du petit matin avec toute l'équipe. Isabelle Saporta, Marina, Martial Youf, Florian Gazan, bonjour à tous.
Bonjour.
Isabelle, le retour inattendu des zones à faible émission et de ma prime rénov. Tout ça en deux jours, ça fait beaucoup.
Oui, bah c'est deux pas en avant, deux pas en arrière. En fait, vous n'y comprenez rien. Vous êtes totalement perdu, c'est normal, tout le monde l'est.
Martial Labourse réagit au changement de tête chez Renault.
Oui, avec beaucoup de questions qui restent en suspens sur ce qui reste à faire chez Renault. C'est pour ça que ça chute et ce qu'il faut faire chez Kering, c'est pour ça que ça monte.
Marina, question à l'occasion du salon du Bourget. Comment se forment les traînées blanches derrière les avions?
Les traînées de condensation, et dans quelle mesure sont-elles polluantes? Des études commencent à s'intéresser à ce qu'on appelle donc les traînées de condensation et je vous les détaille dans un quart d'heure.
Florian, les pourquoi de l'info ce matin?
Le plus grand groupe français de l'histoire est à Bercy ce soir à l'Accor Arena. Indochine, 4 concerts complets, une tournée de 97 concerts, bref c'est monstrueux. Et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi le groupe Indochine qui a 40 ans a choisi ce nom.
À tout à l'heure, vous écoutez RTL. Il est 6h30.
Jérôme Florin, RTL Matin.
Le journal, c'est avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Jérôme, bonjour Marina et bonjour à tous.
S'assurer n'a jamais coûté aussi cher.
Les tarifs des assurances auto et habitation flambent sur un an. Catastrophe naturelle, coût des pièces détachées, on vous explique pourquoi dans un instant. Également à la une, cinquième jour de guerre entre Israël et l'Iran, le G7 appelle à protéger les civils. Le premier ministre israélien lui dit que tuer le guide suprême mettrait fin au conflit. Et puis la fin du conclave sur les retraites ce soir, à moins que François Bayrou ne prolonge les négociations, lui qui a désespérément besoin d'un accord entre syndicats et patronat.
RTL Matin.
1000 euros, voilà ce que vous allez dépenser en moyenne cette année pour votre assurance habitation et votre assurance auto. Ce sont les chiffres du comparateur en ligne Assureland. Les tarifs s'envolent sur un an, plus 12,8% pour l'assurance habitation à cause notamment des catastrophes naturelles, plus 6,8% pour l'assurance auto. Et là, ça s'explique avant tout par le prix des pièces détachées, Christophe Bourroux.
Oui, en 4 ans, on a assisté à une véritable envolée du prix des pièces détachées neuves de près de 30%, en cause de la flambée des matières premières, mais aussi des voitures de plus en plus sophistiquées, selon Olivier Moustatakis, à la tête du comparateur de prix en ligne Assureland.
Toutes les nouvelles technologies, tous les capteurs maintenant sont entièrement numérisés. Les systèmes d'éclairage adaptatif, alors c'est génial parce que ça facilite évidemment la conduite, mais c'est également de plus en plus complexe à réparer, donc ça coûte plus cher en matière de réparation.
Pourtant, il existe un moyen simple de faire diminuer la facture.
Ce sont les pièces détachées de réemploi, les pièces d'occasion. Et malheureusement, il n'y a que 5,3% des pièces qui sont remplacées lors des réparations, qui sont des pièces recyclées, ce qui est bien dommage.
Ainsi, votre garagiste doit être en mesure de vous proposer deux devis, l'un avec des pièces neuves, l'autre avec des pièces d'occasion. C'est une obligation, n'hésitez pas à le demander. Pour un phare, un capot, un pare-choc avec de belles économies à la clé, de l'ordre de 50 à 70% en moyenne.
Explication signée Christophe Bourroux. Les pays du G7 réaffirment ce matin le droit d'Israël à se défendre tout en appelant à protéger les civils.
Alors que l'Iran a tiré cette nuit plusieurs salves de missiles en représailles aux frappes israéliennes sur son sol, des frappes qui ne ciblent plus seulement des sites militaires, des lieux de pouvoir sont aussi touchés, à l'image d'un bâtiment de la télévision d'État bombardé hier en plein direct. Le danger est partout et la panique gagne les civils iraniens. Valentin Boisset a pu joindre pour RTL Aïda, qui vit dans la région d'Ispahan, au sud de la capitale Téhéran.
Nous sommes inquiets. Les entreprises ont toutes fermé. Toutes les nuits, on essaye de suivre les nouvelles, car on ne peut pas dormir lorsque les missiles tombent. Beaucoup de gens quittent Téhéran. Avec toutes les infrastructures et toutes les installations qu'il y a là-bas, ça peut être un vrai désastre. Donc on ne peut pas être en sécurité là-bas. Et puis les autres villes ont décidé d'ouvrir les maisons pour pouvoir accueillir les habitants de Téhéran, justement. La majorité des citoyens n'ont pas d'armes, pas de missiles, donc c'est nécessaire qu'ils s'éloignent et puissent prendre soin d'eux.
Propos recueillis par Valentin Boisset. Nous sommes en train de changer la face du Moyen-Orient. Ça, c'est le Premier ministre ministre israélien qui l'a dit hier soir, Benjamin Netanyahou, qui estime que tuer le guide suprême Khamenei, le numéro 1 du régime iranien, permettrait de mettre fin au conflit, il l'a dit à un média américain. Emmanuel Macron lui estime au contraire que vouloir faire tomber le régime par la force serait une erreur stratégique. C'est ce qu'il a dit cette nuit en marge du sommet du G7 au Canada, que Donald Trump vient de quitter prématurément, précisément pour s'occuper du conflit israélo-iranien, dit la Maison Blanche.
Un conflit qui pourrait s'exporter chez nous en France, c'est en tout cas la crainte du ministre de l'Intérieur.
Qui a décidé de renforcer les patrouilles de militaires et de policiers autour des lieux de culte, des ambassades et des écoles par crainte d'un acte terroriste. Illustration devant cette synagogue du 11e arrondissement de Paris, Morad Jabari.
C'est une façade comme une autre, en pierre ordinaire. Rien ne montre vraiment qu'il s'agit d'une synagogue. Dans les prochaines heures, un camion de police ou de militaires sera posté devant l'entrée. Une triste habitude pour Raphaël.
Je les ai vus même étant petit à l'école. J'ai ce souvenir de cette petite cabine qui était devant l'école, avec un militaire posté toujours. C'est quelque chose qui est malheureusement dans notre cœur. Et je trouve que c'est pas beau. On devrait pas en être là. En France, on est assez intelligent pour comprendre que ce qui se passe là-bas, c'est indépendant de notre volonté.
Une présence qu'il juge malgré tout nécessaire et rassurante. Eden aussi se sent un peu plus en sécurité. Du fond de sa poche, il sort une kippa. Il ne la porte qu'une fois arrivé à la synagogue.
Depuis le 7 octobre, c'est vrai que j'évite de porter la kippa de manière générale. C'est vrai.
Il s'engouffre sans perdre de temps, disparaît derrière le haut portail de la synagogue. Juste derrière, Ruben entre à son tour. Cette surveillance est selon lui contre-productive.
Bon, ça ne va rien changer du tout. Au contraire, ils vont les mettre en évidence plus qu'autre chose. Quand tout se fait dans l'anonymat, ça peut passer plus simplement que quand on met des choses en exergue.
Surveiller, protéger, oui, mais de façon plus discrète.
Reportage RTL de Morad Jabari. Dans l'actualité aussi, les obsèques de Mélanie, cette surveillante de 31 ans tuée par un collégien la semaine dernière à Nogent en Haute-Marne. La cérémonie aura lieu tout à l'heure à Sarcey où elle vivait dans la plus stricte intimité. Et puis les airbags défectueux de la marque japonaise Takata ont fait une nouvelle victime, une mère de famille d'une quarantaine d'années décédée la semaine dernière près de Reims. C'est le deuxième accident mortel en métropole.
Fumée blanche ou fumée noire? Le conclave sur les retraites s'achève en principe cet après-midi.
En principe, parce que François Bayrou, qui est à l'origine de ces négociations syndicat-patronat, est prêt à tout pour arracher un accord dans la dernière ligne droite, Thomas Després.
Absolument, c'est le money time, comme on dirait en basket. C'est maintenant que tout se joue. Enfin, pas tout à fait. Maintenant, ou dans quelques jours, s'ils ont besoin de plus de temps, les syndicats et le patronat en auront. Voilà en clair ce que leur a glissé ces derniers jours François Bayrou, lorsqu'ils ont défilé les uns après les autres dans son bureau. Et tant pis si l'accord est à la marge, pourvu qu'il y en ait un, lui qui avait fait de ce conclave sa botte secrète pour arracher la non-censure des socialistes en début d'année. Et après, que se passera-t-il? Si le Premier ministre a promis de soumettre au Parlement les propositions des partenaires sociaux dans son entourage, on espère de plus en plus que cette étape pourra être évitée à travers un tour de passe-passe, en s'appuyant à la place sur des décrets et des circulaires, au risque de provoquer l'ire de la gauche à la recherche du moindre prétexte pour faire chuter le gouvernement.
Merci beaucoup Thomas Després, toujours dans cet objectif d'arracher un accord. François Bayrou vient de proposer aux syndicats et aux patronats l'idée d'une prime pour les salariés qui continuent à travailler après l'âge de départ. Marie-Lise Léon, la patronne de la CFDT, nous dira ce qu'elle en pense. Elle sera l'invitée de RTL Matin à 7h40.
Et puis un exploit tricolore au championnat d'Europe d'escrime.
La médaille d'argent pour le jeune fleurettiste Anas Anan. C'était sa première sélection. Il a notamment sorti le numéro 2 mondial. Il a tout juste 21 ans. Il est sans complexe.
Je savais que j'étais capable d'aller loin. Mais le jour J, ça reste quand même spécial. Il faut vraiment être dans le bon état d'esprit et tout. Et ouais, au début de journée, je me suis senti bien. Je stressais pas trop. J'arrivais à gérer mes émotions, à faire ce qu'il fallait. Et ça m'a emmené jusqu'ici. Donc je suis très content aussi.
Voilà, Anas Anan, désormais vice-champion d'Europe de fleuret.
C'est bien ça, d'Europe. Merci beaucoup Sébastien Rouxel. Vous revenez à 8h.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Vous le disiez dans le journal, le conclave sur les retraites s'achève avec cette proposition de François Bayrou au syndicat, une prime pour les salariés seniors qui décident de rester au travail. On leur verserait une partie de leur retraite en plus de leur salaire. Voilà donc la proposition du chef du gouvernement. Qu'en pensez-vous? Vous réagissez ce matin, Marina?
Alors, pour Karine, si nous sommes fatigués et à bout pour travailler jusqu'à 64 ans, ce n'est pas une prime qui fera que nous allions mieux physiquement. Pour Christophe, en effet, tout dépend de quel travail on parle. Pour le travail de bureau, oui, pourquoi pas une prime pour continuer. Nadia, elle est contre, place aux jeunes. Elle sera obligée de travailler jusqu'à 67 ans pour avoir une retraite à peu près correcte. Mais à sa date de départ, bye bye, nous dit-elle. Et enfin, Pour Philippe, c'est un non-sens total. On parle de prime, faut savoir, il y a des sous, il n'y a pas de sous. Quelle pagaille.
Dans votre tablé du petit matin, ma prime rénove les zones à faible émission. Ça s'en va et ça revient et on n'y comprend plus rien. Restez avec nous, 6h38.
RTL Matin.
Avec Jérôme Florin. Les ados peuvent télécharger toutes sortes d'applications depuis les App Store, y compris celles qui ne sont pas adaptées à leur âge. C'est pourquoi Instagram demande une réglementation européenne exigeant la vérification de l'âge et un accord parental sur l'App Store. Plus d'infos sur instagram.com/accordparental.
Vous rêvez de vacances ? L'échec vacances de la NCV vous offre un moment d'évasion alors que vos congés n'ont pas encore commencé. Patience ! Voyage, hébergement, restauration, loisirs sportifs et culturels. L'échec vacances de la NCV, c'est tout ça à la fois. Plus de 120 000 partenaires pour donner vie à vos envies. Rendez-vous vite sur leguide.ancv.com. L'évasion commence ici.
Tous les samedis soirs d'été, les grandes eaux nocturnes vous donnent rendez-vous dans le jardin royal du château de Versailles. Une promenade féerique en famille ou entre amis semée d'étonnement et de surprises jusqu'au majestueux feu d'artifice final. Vous aussi, vous pourrez dire « J'y étais ». Réservation sur chateauversailles-spectacle.fr avec RTL.
Il y a des choses que je n'ai jamais dites à ma famille. Mon fameux plat maison vient de chez le traiteur. Je leur fais croire que je deviens sourde pour qu'ils arrêtent de me demander des choses. Et non, le chat n'est jamais parti en vacances.
On peut ne pas tout dire à ses proches. En revanche, leur dire qu'on est donneur d'organes, c'est important. Le don d'organes sauve des vies. Alors, rappelez à vos proches que vous êtes donneur. Ceci est un message de l'Agence de la biomédecine, agence relevant du ministère de la Santé.
Oh, hâte de partir cet été, mais je crains les galères en voiture.
Tu veux rouler tranquille ? Choisis les pneus Michelin, conçus pour assurer ta sécurité tout au long de leur durée de vie. T'en profiteras même après les vacances.
Tiens, du 2 juin au 27 juillet, il y a une promo sur les pneus Michelin. Jusqu'à 120 euros TTC remboursés pour l'achat de 4 pneus voiture. J'achète ?
Retrouvez les modalités de l'offre sur Michelin.fr, rubrique promo.
Recruter une personne de plus de 50 ans ? Jamais de la vie.
Ah, moi, c'est la meilleure décision que j'ai prise. J'ai recruté Sophie, 55 ans, pour être vendeuse dans mon magasin. Grâce à son expérience, elle donne des conseils très pertinents et elle sait s'adapter aux besoins des clients.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Jérôme Florin,
RTL Matin.
L'élimination de l'ayatollah Khamenei, le guide suprême iranien, c'est l'objectif désormais clairement annoncé et affiché de Benjamin Netanyahou. Il l'a dit hier soir sur la chaîne américaine ABC, mais les États-Unis et la France s'y opposent toujours. Explication dans le journal de 7h, alors que les tensions se sont poursuivies cette nuit entre Israël et l'Iran. Dans le journal de 7h également, la fin du conclave sur les retraites. On vous dira ce qui va changer. Et puis des nouvelles d'Eddy Merckx. De vive voix, il va bien, il fête ses 80 ans et il n'a pas renoncé au vélo, vous l'entendrez. Nous sommes le mardi 17 juin, on est ensemble pour votre tablé du petit matin, votre concentré d'infos pour bien démarrer la journée sur RTL. Isabelle Saporta, une partie des députés macronistes devrait voter aujourd'hui contre le projet de loi de simplification, ce fameux projet de loi de simplification qui prévoit notamment la suppression des zones à faible émission, les ZFE, ce qui aurait pour conséquence de rétablir ces ZFE.
Oui, mais non, mais oui, mais non, mais on verra. La politique française en matière d'écologie, c'est un bateau ivre qui a vraiment perdu le cap des générations futures qu'elle est censée protéger et qui fait donc sans arrêt du stop and go, ce qui la rend totalement illisible. Donc, les zones à faible émission qui avaient été supprimées lors d'une coalition baroque mêlant les voix du RN, de la France insoumise et des LR pourraient finalement être rétablies, à moins qu'elles ne le soient pas. On verra. En attendant, on va apprendre à faire de l'apnée pour ne pas trop respirer l'air pollué des grandes villes. Mais c'est pas tout. Ma prime rénove, une aide qui permet les rénovations thermiques nécessaires à transformer nos bâtiments pour en finir avec les passoires thermiques. Ma prime rénove, donc, qui devait d'abord être gelée pour cause de fraude massive jusqu'à la Saint-Glinglin, puis finalement seulement jusqu'au 15 septembre, va pour finir être maintenue pour les travaux dits monogestes, comme l'isolation des combles, le remplacement d'une chaudière à gaz ou au fioul pour un système de chauffage plus vertueux. Attention, attention, cependant, les rénovations conjuguant plusieurs gestes, elles, sont toujours exclues temporairement du dispositif. Vous êtes perdu, c'est normal. Mais en gros, plus tu rénoves, plus c'est efficace et plus côté aide, pour l'instant tout au moins, tu l'as dans l'os. Et je ne vous parle même pas des pas de deux autour de la réintroduction de l'insecticide tueur d'abeilles, désormais suspendu à une commission mixte paritaire.
Alors, c'est assez inquiétant, Isabelle, quand on
on sait que l'écologie nécessite de la stabilité du long terme pour réaliser des investissements massifs.
Oui, s'il y a un domaine qui demande un peu de vision à long terme pour que les industriels s'engagent dans des investissements lourds mais nécessaires pour que les Français changent leurs habitudes, rénovent leur logement et changent de voiture pour que l'agriculture ait le temps de s'adapter, ben c'est bien le domaine de l'écologie. Oui, mais que pèse notre santé, notre air pur, notre eau et nos abeilles comparé aux petits intérêts électoralistes à court terme ? Pas lourd.
Merci beaucoup Isabelle Saporta, un point c'est tout. D'ailleurs, en parlant d'écologie, on parlera de la pollution des avions avec Marina dans quelques instants, ces fameuses traces blanches qui se forment derrière les avions. Comment se forment-elles d'ailleurs ? Est-ce qu'elles sont dangereuses ? On verra tout cela avec vous Marina dans un instant. D'abord, l'écho à New. Martial You à 6h44, on revient sur l'info économique de la journée d'hier. L'annonce du départ de Renault du patron Luca De Meo pour le groupe de luxe Kering de la famille Pinot, c'était une surprise et la bourse n'y a pas été insensible. Hein.
Effectivement, et la question presque un devoir de philo hier est la suivante. Un homme peut-il être providentiel en économie ? Et si on en croit à la réaction des marchés financiers, oui, puisque l'annonce du départ de Luca De Meo s'est soldée par moins 8,69% pour Renault et plus 11,76% pour Kering.
Ça veut dire que Renault va avoir du mal à se remettre du départ de Luca De Meo ?
Alors Luca De Meo, c'est le numéro 5, pas celui de Chanel, hein, qui n'appartient pas à Kering d'ailleurs, mais le 5 de Renault, 5 ans à la tête de Renault, 5,4% de marge dégagée l'an dernier, alors qu'avant lui, Renault avait affiché des pertes historiques en 2020. Et 5, bien sûr, comme la Renault 5, qu'il a ressuscité et qui est un formidable succès. Et ils sont rares en ce moment en automobile. L'an dernier, Renault a été le seul constructeur automobile occidental à ne pas annoncer d'alerte sur ses résultats avec Ferrari, quand même.
Et donc, c'est un coup dur pour Renault et c'est pour ça que le titre plonge.
Je dirais que ça révèle surtout tous les chantiers que De Meo n'a pas réglés au moment où il s'en va. Luca De Meo a magnifiquement relancé la R5, je vous le disais, la 4L en ce moment, et puis la Twingo bientôt. Mais Renault n'a pas réussi à se développer aux États-Unis et en Chine. L'alliance avec le japonais Nissan est en bout de course. Donc la question de fond à laquelle Luca De Meo échappe en quittant le groupe est Renault peut-elle rester indépendante ? Autre question, comment négocier avec Bruxelles pour éviter que la réglementation ne fragilise les constructeurs européens ? Voilà des questions beaucoup plus difficiles à régler que le revival de la R5 des années 70.
Et chez Kering, il hérite aussi d'un groupe en difficulté ?
Oui, c'est ce que traduit du coup l'envolée à la bourse hier. Kering a besoin d'un capitaine à la barre aux côtés de François-Henri Pinault. Le chiffre d'affaires est en baisse de 14% au premier trimestre, ce qui était pire que prévu. La marque vedette Gucci, raflée au terme d'une bagarre incroyable avec Bernard Arnault il y a plus de 20 ans, et bien Gucci est au fond du sac. Des ventes en chute de 24%, c'est pas loin quand même de 40% des ventes du groupe de luxe, hein, Gucci.
Et là, Luca De Meo est l'homme qui peut relancer ses marques aujourd'hui.
Luca De Meo sait sublimer les marques et les rendre séduisantes. Il est bon quand il récupère une entreprise en crise. Il a bâti sa carrière sur le néo-rétro, c'est-à-dire en relançant la Fiat 500 en 2007 chez Fiat, puis la marque Cupra chez Seat, et enfin donc la Renault 5, parce qu'il parle à la nostalgie des acheteurs de voitures neuves qui ont plus de 50 ans. Mais est-ce que ça marche de la même manière avec une ancienne collection de sacs à main Jackie des années 50? Et est-ce qu'un homme de l'industrie automobile populaire, certes tiré à quatre épingles et un peu dandy, est-ce qu'il peut sauver une marque de luxe? Pour l'instant, on s'en remet à la Providence autant qu'à l'homme providentiel.
Merci beaucoup, Martial You. Le Salon du Bourget a ouvert ses portes hier, c'est toute la semaine, c'est jusqu'à dimanche. C'est un rendez-vous économique, politique, mais aussi un rendez-vous pour les passionnés du ciel et des avions. Et vous l'avez remarqué, derrière les avions, on voit souvent ces traînées blanches. Alors ce sont des traînées de condensation, c'est de la pollution qui pourrait être limitée selon des études récentes. Marina, voyons avec vous d'abord ces traînées, elles se forment comment ?
Alors elles viennent de la combustion du kérosène de l'avion. L'avion lâche des particules de fioul qui s'attachent aux cristaux de glace qui sont dans le ciel, donnant ces traînées blanches comme un cirrus en fait, ce nuage en forme de filament. On ne les a pas derrière tous les avions, car il faut des conditions météo particulières pour qu'elles se forment, un certain froid et une certaine humidité, donc plutôt à une certaine altitude.
Et elles sont polluantes.
Alors, prises individuellement, peu car elles durent que quelques minutes, mais si on regarde l'ensemble du trafic aérien, oui, et surtout, certaines durent plus longtemps, notamment la nuit, où les conditions météo leur sont plus favorables et ça crée un voile nuageux, un voile de pollution. Et ça agit comme un effet de serre, un gaz à effet de serre. C'est-à-dire que la chaleur qui remonte de la Terre est bloquée par ce voile. Elle ne peut pas être renvoyée hors de l'atmosphère, provoquant donc le réchauffement.
Et on a une idée de ce que représente cette pollution ?
Alors, selon une étude de 2021 publiée dans la revue scientifique Atmospheric Environment, elle pourrait représenter jusqu'à 57% de l'impact de l'aviation sur le réchauffement, soit bien plus que les émissions de CO2 dues à la combustion du carburant. Mais les auteurs de l'étude restent dans le conditionnel car on en est au début des analyses sur les traînées de condensation. Et il y a un espoir d'action car 80% de cette pollution est créée par seulement 3% des vols, selon une autre étude publiée en novembre dernier par l'organisation non gouvernementale Transport et Environnement, car ce sont seulement les avions qui volent les plus hauts sous certaines conditions météo, je vous l'ai dit, qui les créent, pas les autres.
Donc, en fait, il suffirait de modifier le trajet de 3% de ces vols pour baisser ces traînées de condensation.
Oui, et c'est ce que plusieurs compagnies aériennes testent. Elles modifient le trajet de ces avions pour éviter les endroits favorables à la création des traînées de condensation. Mais il ne faudrait pas que ces changements de trajectoire rallongent le parcours et fassent plus consommer les avions, c'est-à-dire polluer moins d'un côté pour polluer plus de l'autre. C'est en expérimentation. Il y en a aux États-Unis, en Allemagne et en France. Elles ont commencé pour la première fois l'année dernière par la compagnie aérienne Amelia sur son Paris-Valladolid. C'est en Espagne. Les pilotes d'Air France aussi travaillent avec Météo France pour améliorer les prévisions des zones à risque pour que les pilotes puissent éventuellement éviter les endroits où se forment les traînées de condensation. Mais on en est au début des études, des tests, des expérimentations et c'est un sujet en tous les cas sur lequel les scientifiques travaillent.
Merci beaucoup Marina. Est-ce qu'il y a des fans d'Indochine dans la salle ?
Oui, à l'époque de l'adolescence plutôt.
Il y en a quelques-uns, il y a Martial qui a fait pas trop son truc. En tout cas,
ça, Olivier Dauvert.
Oui, c'est un fan d'Indochine, Olivier, que vous retrouvez à 7h15 tout à l'heure. Le groupe Indochine entame une série de 4 concerts complets à Paris, à l'Accor Arena. Indochine, groupe de tous les records, on rappelle quelques chiffres, 13 millions d'albums vendus en 40 ans de carrière et une tournée en cours la plus longue de l'histoire pour un artiste français. 97 concerts prévus jusqu'en mars 2027. Et Florian Gazan, ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi Indochine a choisi ce nom.
Oui, ce nom, c'est Nicolas Sirkis, le chanteur et leader du groupe, qui l'a créé officiellement le 10 mai 1981, un jour donc doublement historique, puisque c'est aussi celui de l'élection de François Mitterrand. Et coïncidence, c'est une grande amie du président Mitterrand, il l'avait rencontré en 1943, qui a inspiré au chanteur d'Indochine le nom du groupe, Marguerite Donadieu, plus connue sous son nom d'écrivain, Duras, du nom du petit village du Lot-et-Garonne où était né son papa.
Et pourquoi Marguerite Duras ?
Eh bien, parce qu'à l'âge de 15 ans, Nicolas Sirkis avait comme livre de chevet un barrage contre le Pacifique. Roman quasi autobiographique où Duras raconte son adolescence, elle qui était née près de Saïgon, en Indochine. Nicolas Sirkis confesse que tout de suite il a été fasciné par le style de l'écrivaine dont il dit, je cite, « Ses livres sont comme une sieste, très long, mais on ne dort jamais, on somnole comme si on était dans la drogue sans rien avoir pris. » À partir de là, il va tout lire d'elle et le jour où il doit trouver un nom pour son groupe, forcément, bah, il pense à Marguerite Duras.
Et donc c'est comme ça qu'il choisit Indochine.
Ouais, il dit d'ailleurs que si Marguerite Duras était née en Océanie, bah, son groupe se serait appelé comme ça, Océanie. Indochine, Nicolas Sirkis aime le côté colonial décadent de ce nom. Pas sa maison de disques qui essaie de le convaincre d'en changer. Pour eux, Indochine, bah, c'est le nom d'une défaite française, d'une guerre perdue, puis ça sonne très vieillot. Mais le chanteur s'accroche et obtient gain de cause. Et son amour de Marguerite Duras va accoucher de quelques grands tubes du groupe, par exemple, tiens, celui-ci. Trois nuits par semaine, inspiré par L'Amant, le Goncourt en 1984 de Marguerite Duras, mais aussi celui-ci. Nicolas Sirkis avoue qu'il l'a écrite en pensant au visage de Marguerite Duras, jeune, avec ses cheveux courts, qui, je cite, il vient de lire, ressemble à un garçon. Et cette passion pour l'écrivaine continue 44 ans après, figurez-vous.
Oui, vraiment ?
Oui, une passion intacte. Nicolas Sirkis dit qu'avec Duras, il est, je cite, comme un vieux prêtre dans son église. Sur ma table de chevet, j'ai mon missel qui est un de ses livres et je lis une page tous les soirs, si je peux. Je connais presque toute l'œuvre de Duras par cœur. Oui, en matière de Duras, Nicolas Sirkis, il n'est pas du genre moderato. Cantabile, bien sûr.
Moderato Cantabile, c'est le titre d'un roman de Marguerite Duras, évidemment, pour les connaisseurs. Merci beaucoup, Florian Gazan. On vous offrait ce matin un séjour pour le parc Astérix, Marina.
Ah oui, un séjour pour 4 personnes, en famille ou entre amis, hein, vous choisirez. Et c'est André Delorme qui aura la chance de choisir les 3 autres personnes qui vont l'accompagner.
Bah, très bien, il n'a pas encore trouvé ?
Je ne sais pas.
Mais on est là, on est là.
Hein. On est là, 1, 2, 3.
Votre matinale se poursuit dans un instant avec l'information toujours dominée par ces tensions entre Israël et l'Iran qui se sont poursuivies cette nuit. Donald Trump a quitté le G7 d'ailleurs au Canada. Il l'a quitté prématurément il y a quelques minutes en raison des tensions au Moyen-Orient. On y reviendra dans le journal de 7h avec Amandine Bégaud et Thomas Soto. Thomas qui recevra à 7h40 Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT, alors que doit s'achever aujourd'hui le conclave sur les retraites.
RTL Matin avec Jérôme Florin. On en parle.
Et si on prenait la route des économies à l'occasion des prochaines vacances ? On en parle avec Camille, conseillère EDF. Bonjour.
Bonjour.
Alors Camille, on entend beaucoup parler de mobilité électrique en ce moment. Est-ce vraiment le bon choix ?
Absolument. Opter pour la mobilité électrique, c'est tout simplement réaliser des économies. Concrètement, il faut savoir que recharger une voiture électrique coûte en moyenne 4 fois moins cher qu'un plein d'essence.
Ah ouais, quand même.
Oui, et d'ailleurs, vous pouvez facilement contrôler et gérer votre consommation avec l'application EDF et moi. L'intérêt est d'optimiser la recharge de votre voiture en fonction de vos besoins et de vos heures creuses. C'est quand même plus agréable de rester à la maison que d'aller à la station-service.
Ça, c'est sûr, forcément, et ça donne envie.
En plus, jusqu'au 30 juin, et si vous souscrivez à un nouveau contrat d'électricité EDF en offre de marché, vous pouvez gagner une voiture électrique par tirage au sort. Il vous suffit d'aller sur edf.fr/wattmobile.
Merci Camille.
On en parle. Source R&D EDF, mars 2025. Plus d'infos sur edf.fr/mobilité-électrique. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Cuisine Xina présente, la cuisine à 2 990 € avec le plan 3D offert.
Super ce plan, on se projette bien là.
Ouais, je te vois déjà ranger la vaisselle.
Ah, on doit pas avoir le même plan.
Xina, des offres qui ont tout compris à la vie. Voir conditions sur xina.fr.
Xina. Allopneu.com.
Vos pneus doivent être remplacés, mais le faire en ligne, moi, vous savez pas trop, hein. Sur allopneu.com, rien de plus facile, même la toute première fois. Je rentre mon immatriculation, je valide mes pneus, je prends rendez-vous pour le montage dans l'un des 6000 garages partenaires ou directement à mon domicile, et hop, c'est fait.
Et pour votre première fois, découvrez la marque Vredestein, les pneus haute performance au meilleur rapport qualité-prix.
Allopneu.com.
Si simple de faire changer ses pneus.
Chaque année, près de 30 000 personnes sont secourues par les sauveteurs en mer. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les bénévoles de la SNSM veillent sur vous. Mais n'oubliez pas que c'est grâce à vos dons qu'ils accomplissent leur mission. Depuis 200 ans, et pour longtemps, donner à terre, c'est sauver en mer. Faites un don sur snsm.org.
RTL, place à des vacances sans nuages avec Homer. 450 000 villages en France et en Europe. Réservez sans tarder sur homer.com.
Homer.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
Nous sommes le mardi 17 juin, c'est l'anniversaire d'Eddy Merckx aujourd'hui, légende du cyclisme, 80 ans, vous l'entendrez d'ailleurs dans quelques instants dans le journal de 7h. Il va reprendre le vélo, ça c'est la bonne nouvelle du jour quand même. Et puis tiens, Mlio, la chanteuse qui fête ses 63 ans aujourd'hui. Bonjour Louis Baudin.
Bonjour Jérôme.
Bonjour à tous. Ça vous inspire, Lyon ?
Ah bah oui, ça nous met en forme là, je trouve.
Ah oui. En même temps, on a du beau soleil aujourd'hui.
Exactement, qui arrive et qui va dominer partout.
Eh ben on y va.
Bon bah alors on y va.
Voulez-vous arrêter ?
Du soleil.
Vous avez tout.
Mais ce matin, on a quand même quelques nuages dans le nord-ouest, quelques brouillards même à Saint-Brieuc, à Dinard par exemple, à Caen, à Deauville, à Cherbourg ou encore au Havre. Mais tout ça devrait vite disparaître. Et d'ailleurs, comme hier, sur le littoral, on aura du ciel tout bleu, alors que dans l'intérieur des terres, de la Bretagne à l'Île-de-France, aux régions du nord-est, on aura quelques petits développements nuageux. Mais bon, c'est en conséquence, hein, comme hier, c'est bien le soleil qui s'imposera. Et dans les régions du sud, bah là, ça sera souvent du grand ciel bleu. Alors, sauf en montagne, où comme hier, hein, on aura dans les Alpes du Sud un tout petit risque d'averse en fin d'après-midi. Côté température, bah, toujours grand écart entre le littoral méditerranéen ce matin et les autres régions. 23 degrés en ce moment à Nice ou encore à 7, alors qu'on a 7 degrés seulement à Guéret, 8 à Romorantin ou encore 9 au Puy et à Vichy. Et cet après-midi, là, tout le monde d'accord, ça sera chaleur pour tout le monde. 21 à 24 degrés près de la Manche, mais 27 à 30
31 degrés hein, dans toutes les autres régions. On ira même jusqu'à 33 degrés à Nîmes et 34 degrés à Perpignan.
Vous nous avez annoncé hier une très très belle semaine, ça se confirme.
Et ça se confirme de jour en jour.
Avec un beau week-end à l'horizon.
Jusqu'au week-end inclus.
Week-end inclus, oui, parce qu'en général ça s'arrête le samedi.
Voilà, ça s'arrête le samedi, mais là visiblement la dégradation orageuse ou nuageuse interviendra après le week-end.
Un peu plus tard, merci beaucoup.
Plus tard.
Oui, merci à toute l'équipe, merci au petit matin, on se retrouve demain à 4h30. Et on accueille maintenant Amandine Bégaud et Thomas Soto. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme,
ça va bien ?
Très très bien, nous fêtons les Hervé aujourd'hui. Je voulais saluer notre réalisateur Hervé Pépillon.
Bonne fête à Hervé qu'on embrasse
et, ben voilà.
Et qu'on retrouve avec vous et toute l'équipe dès demain
4h30. Bien sûr, demain.
Bonjour Thomas.
C'est aussi notre directeur de l'info.
Exactement, Hervé Béron, que l'on salue également.
C'est important, c'est comme Michel Drucker, il faut toujours saluer Hervé Béron.
Et Hervé Villard aussi.
Merci à vous, on vous retrouvera demain matin à partir de 4h30. Bonjour Amandine.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Le money time, comme on dit dans le basket, le temps additionnel dans le foot, l'heure de vérité, comme on disait jadis à la télé. Bref, c'est l'heure du verdict pour le conclave sur les retraites. En principe, ce n'est plus qu'une question d'heure, même si François Bayrou n'a pas exclu de prolonger la fête. C'est entre les mains des partenaires sociaux. Et bien juste elle détient une partie de la solution. C'est la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon. Elle sera l'invitée d'RTL Matin, ce sera tout à l'heure à 7h40.
À 8h15, on a choisi ce matin de revenir sur un verdict qui est passé un peu inaperçu compte tenu de l'actualité internationale. Deux jeunes de 14 ans condamnés à 7 ans et 9 ans de prison ferme pour le viol d'une toute jeune fille de 12 ans. Un viol à caractère antisémite qui avait bouleversé la France entière pour la première fois depuis le verdict. Le père de la victime prend la parole. Il sera mon invité donc tout à l'heure à 8h15.
On va aussi vous parler de ce nouveau mot qui peut effrayer et qui, semble-t-il, peuple nos assiettes, le cadmium. Le cadmium, qu'est-ce que c'est? Comment s'en protéger? Quels sont les aliments qui sont concernés? C'est le docteur Jimmy Mohamed qui nous en parlera et qui tentera de nous rassurer. Ce sera à 8h35.
Comme chaque jour, vous pouvez poser vos questions au docteur Jimmy Mohamed, mais aussi à l'ensemble de l'équipe d'RTL Matin et à Juliette Binoche, puisqu'elle sera demain à l'affiche de The Return, le retour d'Ulysse. Mais avant cela, l'actrice sera avec nous à 9h40.
Nous sommes le mardi 17 juin 2025. Merci à vous de vous réveiller en écoutant RTL. Votre fidélité nous honore. Il est 7h.
RTL Matin, Thomas Soto et Amandine Bégaud.
Et le journal, c'est avec vous, oui.